3h à Paris, 2h en temps universel.
Antoine Galen.
Aux États-Unis, un juge bloque l'accès d'Elon Musk au système de paiement du Trésor américain. Une décision temporaire, mais symbolique. Dans ce journal également, les chefs d'État des organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont rencontrés à Dar es Salaam pour évoquer la situation dans l'Est de la RDC. Dans un communiqué, ils demandent un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'un accès à l'aide humanitaire à Goma. Mais la porte-parole du président Félix Tshisekedi regrette que le Rwanda ne soit pas nommément condamné. En Syrie, cela fait 2 mois désormais que Bachar al-Assad est tombé. Les nouvelles couleurs du pays sont aujourd'hui très présentes, mais celles de l'ancien régime n'ont pas encore totalement disparu. Et puis les pays baltes se déconnectent du réseau électrique russe. Un acte de souveraineté selon Thierry Bross, spécialiste des questions énergétique, vous l'entendrez. Aux États-Unis, les efforts de Donald Trump pour réduire les dépenses publiques et tailler dans le personnel fédéral continuent de se heurter à la justice. Dernière décision en date, un juge qui bloque l'accès d'Elon Musk au système de paiement du Trésor américain. Cet accès avait été vivement critiqué et qualifié de dangereux. Lubna Anaki à New York.
Une note interne au Trésor américain révélée par les médias parle de la plus grande menace interne à laquelle le service fiscal a été confronté. Elon Musk et Doge, son département de l'efficacité gouvernementale créé par Donald Trump, avaient pris le contrôle du système de paiement du Trésor il y a quelques jours, provoquant une tempête de réactions. Il faut savoir que ce système gère les fonds fédéraux, y compris les salaires des fonctionnaires, l'argent destiné aux fonds de retraite ou encore les fonds du programme d'assurance maladie médicale. Pour Elon Musk, c'est, je cite, « la seule façon de mettre fin à la fraude et au gaspillage de l'argent du contribuable ». Mais pour protester contre cette prise de contrôle jugée dangereuse, les procureurs généraux d'une vingtaine d'États ont saisi le juge qui a donc décidé d'interdire l'accès aux données du Trésor américain aux membres de Doge et toute autre agence extérieure. Une décision temporaire jusqu'à une nouvelle audience prévue le 14 février. Depuis quelques jours, les décisions de justice se sont multipliées pour suspendre ou bloquer les efforts de Donald Trump et son administration pour réduire le nombre de fonctionnaires ou contrôler le budget des agences. Lubna Anaki, New York, RFI.
Ce vendredi, l'administration Trump a réclamé la suppression pure et simple de l'USAID, l'agence qui apporte son soutien à des millions de personnes dans le monde. Direction la Tanzanie. Ce samedi, les chefs d'État des organisations d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe se sont rencontrés à Dar es Salaam pour évoquer la situation dans l'est de la RDC avec l'agression rwandaise dénoncée par Kinshasa. Jusqu'ici, ces deux blocs régionaux avaient mené des processus de paix parallèles, mais dans un communiqué conjoint, ils ont demandé hier un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, ainsi qu'un accès à l'aide humanitaire à Goma. En revanche, le communiqué commun n'a pas condamné le Rwanda comme le demandaient les autorités congolaises, ce que déplore la porte-parole du président Félix Tshisekedi, Tina Salama, jointe par Paulina Zidi.
Nous savons tous que dans ce genre de sommet, les mots sont choisis avec soin et cela, en tout cas, nous les déplorons vivement parce qu'il s'agit ici de la vie des milliers de Congolais. Hein. C'est une agression qui est avérée et qui n'est plus approuvée, en tout cas, et cela dure depuis 3 décennies. Alors, nous ne perdons pas espoir. Nous savons que les lignes sont vraiment en train de bouger. Vous avez suivi hier ce qui s'est passé à Genève où le haut-commissaire aux droits de l'homme, Monsieur Volker Turk, il a été clair, en tout cas, il a dit que si on y prend garde, cette crise risque d'embraser toute la sous-région et c'est également la position du président Ndayishimiye et du président burundais hein, qui ne cesse de le répéter. Mais cela étant, il y a quand même des condamnations que nous saluons, notamment par le Conseil des droits de l'homme, mais également hein, la CEAC qui a reconnu et condamné implicitement le Rwanda. Voilà. Mais nous restons en tout cas sur notre position principale qui est le retrait sans condition de toutes les troupes rwandaises hein, du territoire congolais.
Tina Salama, porte-parole du président de la RDC, Félix Tshisekedi, jointe par Paulina Zidi. Au Proche-Orient, 3 nouveaux otages israéliens ont été libérés par le Hamas en échange de la libération de 183 prisonniers palestiniens. 5e échange prévu par l'accord de cessez-le-feu, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a envoyé des négociateurs au Qatar pour discuter de la trêve à Gaza. Pendant ce temps, en Cisjordanie, une ONG accuse Israël de raids délibérés contre les familles qui attendaient la libération de leurs proches dans le cadre d'un nouvel échange avec des otages à Gaza. Après plus de 2 ans d'intérim, le Liban a enfin un gouvernement. Il sera dirigé par le Premier ministre Nawaf Salam, qui souhaite un gouvernement de réformes et de salut. Des réformes, c'est ce qu'espère l'ambassade américaine qui a salué la formation de ce gouvernement. Le pays est marqué par une grave crise économique et une guerre dévastatrice entre Israël et le Hezbollah. En Syrie, cela fait 2 mois désormais que Bachar al-Assad a fui le pays et que son régime est tombé. Dès l'annonce de son départ, les portraits de lui ont été arrachés, le drapeau national a été remplacé par celui de la révolution. Les nouvelles couleurs de la Syrie sont aujourd'hui très présentes, mais celles de l'ancien régime n'ont pas encore totalement disparu. Reportage à Damas de nos envoyés spéciaux Bertrand Eckler et Guillaume Deltel avec Nour Salam.
C'est l'entrée nord de Damas sur la route principale. Au milieu d'un échangeur, une imposante mosaïque avec en son centre ce qui fut un grand portrait de Hafez al-Assad. Mais le visage de l'ancien président a été recouvert d'une peinture représentant le nouveau drapeau syrien. Sur le bord de la route, des policiers surveillent la circulation. Des hommes venus d'Idlib arrivaient peu après la chute d'Assad. Et le drapeau était déjà là, se souvient cet officier.
Oui, il était déjà là. Après la chute du régime, les gens ont fait ça tout de suite. C'était une volonté du peuple.
Des murs, des bâtiments, jusqu'au pare-brise des voitures, le nouveau drapeau s'exhibe. Mais dans les villes, les rideaux tirés de certains commerces montrent encore les anciennes couleurs du pays. Elles étaient omniprésentes, explique Aïd Elzouk, un boulanger.
L'ancien drapeau, tout le monde était obligé de l'avoir, même le magasin le plus cher. Si une personne n'affichait pas le drapeau, elle s'exposait à une punition ou un interrogatoire.
Et si elle subsiste aujourd'hui encore, ce n'est pas par adhésion à l'ancien régime, assure-t-il.
Je n'ai pas d'argent. Avant, j'étais obligé d'avoir l'argent pour le drapeau. Maintenant, non. Et même si j'avais l'argent, il y aurait mieux à faire.
Bertrand Eckler, Nour Salam, Guilhem Lataï, Damas, RFI.
Ce vendredi, le président français a réaffirmé le soutien de la France à l'unité et à la souveraineté de la Syrie, tout en poursuivant la lutte contre Daesh. Non à la démocratie, non à la théocratie. C'est le slogan de plusieurs milliers d'opposants iraniens venus de toute l'Europe pour manifester à Paris ce samedi. Il s'agissait du 46e anniversaire de la révolution antimonarchique. Les manifestants appellent la communauté internationale à la fermeté face aux autorités de Téhéran. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne dépendent plus du tout de la Russie pour leur approvisionnement électrique. Ils vont être raccordés dimanche au réseau européen, un acte de souveraineté pour ces 3 anciennes républiques soviétiques comme pour l'Union européenne, selon Thierry Bros, spécialiste des questions énergétiques.
C'était la volonté de ces pays qui étaient sous domination de l'Union soviétique de se détacher de la Russie avant la guerre. Et effectivement, c'est une grande réussite de l'Union européenne. On les a aidés et aujourd'hui, ils sont souverains, ils sont indépendants, ils rentrent dans le réseau européen. L'Ukraine l'avait fait, on l'avait fait pour l'Ukraine en plein milieu de la guerre. Là, on l'a fait sur une période un peu plus longue. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être souverain sur son énergie si on veut demain être souverain sur son propre territoire. La Russie est un rival et donc il faut être en capacité d'être indépendant de la Russie et de surveiller nos infrastructures. Malheureusement, sur la Baltique, nous avons eu des incidents. Aujourd'hui, l'OTAN a décidé depuis la mi-janvier de lancer une opération pour surveiller les infrastructures énergétiques en mer Baltique, mais vous voyez que c'est l'OTAN, c'est pas l'Union européenne. Donc on n'est pas encore devenu un grand acteur complètement souverain.
Ces dernières semaines, la guerre hybride en mer Baltique s'était intensifiée le jour de Noël. Un navire russe avait sectionné un câble électrique sous-marin entre l'Estonie et la Finlande. En France, une première victime d'agression sexuelle de l'abbé Pierre a fait une demande d'indemnisation auprès de l'Église. Un homme qui avait 13 ans au moment des faits a contacté l'INIR, une des instances chargées des réparations face aux violences sexuelles au sein de l'Église. L'abbé Pierre, mort en 2007, était visé fin janvier par 33 accusations de violences sexuelles. Bruxelles, mais le parquet de Paris a indiqué qu'aucune enquête pénale ne sera menée car les faits sont couverts par la prescription. Et puis l'ancien président français Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il mettait ses activités publiques entre parenthèses et ne s'exprimerait plus dans les médias. Vendredi, un bracelet électronique lui avait été posé après sa condamnation à 1 an de prison ferme dans l'affaire des écoutes. Une peine aménagée donc. Sur le réseau social X, il précise qu'il déposera avant la fin du mois un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.